bienvenue dans votre magazine de reportage sur Radio Royan à portée de voix.
Giulia Turati, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Dauban, bonjour.
Bonjour.
Alors Giulia, on a l'habitude de réaliser avec vous des interviews puisque vous êtes la responsable du lieu d'art La Halle à Pont-en-Royon. On n'a pas forcément l'habitude de se retrouver ici, à Vassieux-en-Vercors, à la Nécropole. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 octobre 2019, à la veille du vernissage de l'exposition temporaire qui va être proposée en ces lieux. Et justement, on voulait faire avec vous, juste avant ce vernissage, un petit point sur cette invitation et sur la démarche de Nicolas.
Oui, donc ce projet Ombre-Lumière, qui est un projet en extérieur, est vraiment pensé pour ces lieux de la nécropole, est en troisième phase de recherche donc de Nicolas Dauban, une recherche qui perdure maintenant depuis plusieurs mois, voire quasiment 2 ans. Recherche un partenariat avec les équipes aussi du Mémorial National de la prison de Montluc à Lyon. Donc des historiens et donc des recherches que Nicolas a menées autour de la résistance pendant l'occupation et plus en particulier la résistance dans les Vercors. Donc on a eu une exposition donc à Lyon au mémorial de la prison de Montluc en février dernier où Nicolas s'est intéressé à des histoires de prisonniers pendant cette époque où les travaux et les recherches étaient beaucoup centrés sous les archives des témoignages de torture aussi, des histoires d'emprisonnement pendant cette époque. À L'Halle, il y a eu un travail autour de la résistance donc d'Alvercors, avec un axe aussi d'entrée via la question du paysage. Comment des paysages qui sont si majestueux, si beaux ici, ont pu être le théâtre des événements assez dramatiques. Et donc là, ces recherches vraiment très localisées dans le Vercors, aux nouvelles présentations, donc avec une œuvre qui est intégralement dans le paysage, mais sur un site qui est celui de la Nécropole nationale, qui était forte, chargée d'histoire. Et donc Nicolas a proposé un projet vraiment in situ, sur deux éléments très forts, avec aussi la volonté de jouer sur la départ la taille et la mise en œuvre formelle des œuvres, de jouer vraiment aussi avec la perspective, les ressentis des visiteurs sur place, visitant ces lieux et marchant sur les œuvres.
Alors justement, parlons-en de ces œuvres. Donc, deux œuvres seront proposées. Il est question de béton avec du sucre, il est question de sabotage, il est question de camouflage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Nicolas, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Pour une des premières pièces qui est présentée, qui se retrouvera donc adossée au mur qui ceinture le cimetière, donc. Il s'agit d'une plaque mémorielle, enfin en tout cas moi de ce que j'appelle une plaque mémorielle parce que ça reprend un petit peu ces codes-là, c'est-à-dire un matériau qui est fait pour perdurer et des lettres qui sont inscrites dans le béton. Sauf que l'histoire qui est racontée sur cette plaque est le matériau du béton qui se retrouve saboté donc avec du sucre, je fais une petite parenthèse là-dessus. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le long de la construction du mur de l'Atlantique, pour être très exact, des résistants sacrifiaient un tout petit peu de sucre, le peu de sucre qu'ils devaient avoir dans leurs denrées alimentaires pour pouvoir l'ajouter dans les bétonnières et créer des fragilités sur les architectures de défense construites donc par les Allemands. Je reprends ce geste-là, bien sûr en exagérant les quantités de sucre, ce qui veut dire qu'on peut voir vraiment l'effectivité du sabotage dans le béton. Et là, pour le coup, on va avoir une plaque de béton qui va faire 160 par 1 mètre et avec 5 cm d'épaisseur, donc une sorte de dalle dans laquelle un texte va être inscrit et le sucre va venir brouiller légèrement la lecture, va peut-être même créer des trous, en tout cas va montrer une sorte de vieillissement ultra accéléré de ce que peut être le béton dans le temps, un peu comme si je voulais voir projeter en arrière, très 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 loin, voire même dans un temps quasiment préhistorique et jurassique, les événements passés ici à Vassieux-en-Vercors, alors que j'ai parfaitement conscience que les lieux de mémoire sont là pour rappeler que ce genre ont existé il n'y a pas si longtemps. Mais mon désir de vouloir le projeter très loin est un désir parfaitement utopique de se dire il serait intéressant de pouvoir constater que 2000 ans après, il ne s'est toujours rien passé de tel. Le texte, je peux vous le lire, le texte est extrait d'un témoignage d'un médecin qui est passé à Vassieux, qui d'ailleurs a fait un séjour de 48 heures dans la grotte de la Lure au moment des événements, entre le 22 et le 24 juillet. Il se retrouve donc avec un certain nombre d'habitants de Vassieux enfermés dans une grotte, enfermés délibérément en se tentant de se cacher. Le premier moment de stupeur passé, nous constations que nous possédions, en tout et pour tout, une seule arme. Un Colt américain que m'avait donné la veille l'armurier de la base. Aussi sommes-nous restés tous, tapis dans la grotte, toute la journée, sans oser bouger. Plusieurs fois nous crûmes être pris, entendant parler et courir les Allemands tout près de l'entrée de la grotte. Mais par un hasard extraordinaire, nous ne fûmes pas découverts. Ce texte, je l'ai choisi parce que il relate la survivance, le survécu d'un groupe de personnes, et je pense qu'il était aussi intéressant de projeter un peu comme ça de la vie et de une sorte de forme d'espoir dans ces moments-là ici à la nécropole. Et le hasard fait que, ce qui m'a été précisé par Aurélie Dessert, qui est donc la directrice donc de cet établissement-là, la nécropole de Vassieux-en-Vercors, et du Mémorial National de la Prison de Montluc, qui m'a précisé qu'en fait, l'endroit où ces personnes se cachent fut le premier endroit où furent entreposés les corps qui sont actuellement présents à la nécropole. Donc ce qui est un hasard de fabrication, et là je ne peux pas dire que c'est délibérément mon choix, mais qui est assez fabuleux de pouvoir remettre une plaque qui parle d'une survivance dans le premier lieu dans lequel les corps ont été entreposés. Donc ça, c'est le premier travail qui prend une place relativement discrète, mais avec une visibilité certaine, puisqu'il sera dégagé de toute végétation et on ne verra quasiment que lui lorsque nous serons sur le parking. L'autre pièce qui est quasiment la plus importante, on va dire, dans ce projet-là, qui est une peinture disposée au sol sur laquelle nous pouvons marcher, si possible, pas circuler en voiture, mais nous pouvons marcher, est une peinture qui fait 600 mètres carrés sur deux bâches de 300 mètres carrés chacune, et avec un postulat de départ très simple, qui est de dire « Je souhaite reprendre le geste des artistes lors de la Première Guerre mondiale qui, en urgence, fabriquaient des sortes de linge et de tissus cousus ensemble pour faire un camouflage et pour planquer diverses choses des bombardements aériens. Ils pouvaient planquer des véhicules ou des bâtiments en entier, donc on était sur des surfaces énormes. Des peintures qui étaient appliquées à la serpillière, à la raclette, au balai ou tout ce qu'ils pouvaient trouver. » Et en reprenant cette chose-là et en disposant ces 600 mètres carrés de peinture au sol sur le parking, simplement je viens raconter une chose qui, moi, me paraît intéressante dans l'acte artistique et mémoriel, c'est de pouvoir justement mettre de côté dans ce projet la question de la mémoire, on va dire, telle qu'elle est représentée aujourd'hui, mais juste quelques instants, et la question aussi de l'acte artistique dans ces lieux-là. En fait, le vrai, pour moi, le vrai acte artistique qui du coup s'auto-efface dans son action est de pouvoir avoir le geste de recouvrir ces bâches peintes qui sont donc imprégnées des couleurs du paysage de Vassieux, qui est donc entouré de ces montagnes. C'est d'ailleurs assez intéressant, c'est-à-dire que lorsque je peins, pour choisir mes couleurs, il suffit que je regarde les vallées autour de moi. Donc ça, c'est toujours très très intéressant. C'est parfaitement inscrit dans le mouvement du romantisme, qui est de dire qu'en fait, le gigantisme de la nature autour de nous suffit à la création. Je fais un résumé un peu rapide. En fait, et de pouvoir ensuite disposer ces bâches par-dessus le cimetière, chose que l'on ne fera pas, mais qu'on demandera aux spectateurs de se projeter mentalement et de se dire et de découvrir le cimetière recouvert donc par ces couleurs et qui nous permettrait comme ça visuellement d'imaginer les lieux de la nécropole comme si la nécropole n'avait jamais existé. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de se dire que peut-être l'acte ultime de mémoire et de geste artistique est d'essayer d'imaginer, de tenter de voir le paysage en se disant que, de manière parfaitement utopique, si la guerre n'avait pas eu lieu, il n'y aurait rien eu à commémorer. C'est une sorte d'utopie et d'imagination que je demande de provoquer chez les spectateurs. Et malgré tout ça, je suis quand même dans un moment où je pose la peinture à côté, où on crée un événement avec Julia et Aurélie à la nécropole, où on fait venir des gens, où du coup on appuie sur la question de la mémoire en se disant juste, et c'est ce que je dirais dans le discours demain, peut-être que l'on peut se poser 30 secondes et voir le paysage tel qu'il aurait été si tout ça n'avait pas existé. Qui est voilà, un truc qui est parfaitement utopique, mais qui peut s'entendre même sur la question de la célébration de la mémoire.
C'est vrai que aussi ce qui était très important dans ces projets, c'est que c'est pas juste les milieux de l'art contemporain, c'est pas un centre d'art qui est par définition un laboratoire, un lieu de recherche pour les artistes et des productions nouvelles, d'expérimentation, mais on a vraiment travaillé en étroite collaboration avec des historiens tout au long de ces trois phases du projet. Donc on a cité Aurélie Dessert au mémorial des Montluc. Il y a quand même l'Office national des anciens combattants et victimes des guerres, un organisme du ministère des Armées qui était extrêmement à l'écoute, extrêmement ouvert et qui nous a mis d'ailleurs à disposition ces sites ici de la nécropole pour pouvoir réaliser ces projets hors les murs et en plein air. Il y a aussi la collaboration très fructueuse aussi avec les musées de Vassieux pour tout ce qui est de l'histoire locale de cette page de l'histoire. Gilles Vergnon, historien spécialisé qui nous a soutenus pour la partie des recherches aussi en vue de l'exposition à la Halle avec son expertise, sans oublier aussi l'association des pionniers du Vercors qu'on a eu l'occasion de rencontrer les 21 juillet lors des commémorations, qui ont découvert le projet, qui l'ont embrassé avec enthousiasme, ont certaines curiosités. Donc voilà, il y a eu à plusieurs endroits des gens qui nous ont encouragés, qui ont soutenu, qui ont aidé et qui ont rendu effectivement cette réalisation artistique, donc ces gestes effectivement qui est par définition un déplacement un détournement de quelque chose, donc dans ces cas une certaine histoire, une certaine mémoire, mais ils ont effectivement joué le jeu, vraiment soutenu et accueilli cette nouvelle façon de transmettre la mémoire, parce qu'au final il s'agit vraiment de ça, de proposer une lecture peut-être un peu avec un pas d'à côté, un détournement, mais pour mieux mettre en valeur, pour mieux rémunérer certains événements tragiques de notre histoire récente. L'œuvre, elle est visible tous les jours à toute heure, mais n'hésitez pas à nous contacter pour des visites commentées. Il y a une animation pour les familles qui sera mise en place au mois de novembre. Pour les derniers jours d'expo, la météo permettant, Nicolas va revenir pour une rencontre et voilà, pour échanger encore autour de son œuvre. Donc n'hésitez pas à regarder les sites site de la halle, donc la halle-pontarroyant.org, pour voilà, pour voir toutes les différentes manifestations, événements qui permettront de faire vivre cette installation jusqu'au 8 décembre.
Julia Torati, merci beaucoup. À très bientôt.
À bientôt.